Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Hey, c'est qui ce bozo-là là, qui arrête pas là, de haranguer les étudiants avec un porte-voix à Malaga? Je sais pas si tu as vu dans la presse, il y a un portrait de ce gars-là. Écoute, c'était un mathématicien supposément brillant. Le gars avait entamé des études de doctorat dans une discipline extrêmement difficile. Ça a l'air que c'est un gars brillant, mais... Il y a pas de jugement là quand même là.
Non, mais tu vois, moi c'est j'ai trouvé ça, je l'ai bien lu effectivement, j'ai trouvé ça, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que ça vient s'inscrire en porte-à-faux avec le profil que l'on place habituellement là de ces personnes qui sont soit anti-vaccins, conspirationnistes et etc. Parce que les études l'ont d'ailleurs prouvé là de plusieurs grandes universités, même au début de la pandémie. C'est pas d'hier qu'il y a des complotistes, mais évidemment ils ont été tellement visibles depuis mars 2020 que les universités ont étudié vraiment le phénomène et leur sujet et ces sujets. Et puis on croit déceler qu'ils sont moins éduqués que la moyenne normalement. Alors quand on voit qu'à Malaga, commence des études doctorales, ben là, moi je trouve que c'est comme il y a pas la tête de l'emploi, mais ça a l'air que oui, finalement le jugement, c'est son jugement a quitté son corps à un moment donné.
Ben c'est ça, tu sais, avoir des connaissances, être un intellectuel et avoir un mauvais jugement, tu sais, le nombre d'intellectuels dans les années 50 et 60 qui appuyaient les régimes staliniens puis les régimes maoïstes, ça te donne pas nécessairement un bon jugement d'avoir de grandes connaissances non plus.
Bien d'accord. Puis comme mathématicien qui s'est radicalisé, ben on peut bien penser une chose, hein, c'est que, puis c'est drôle parce que le parallèle que tu es en train de faire, j'allais le faire aussi. L'éducation n'est pas nécessairement garante de jugement. Et voilà, mais on espère qu'il sera encadré un petit peu plus. C'est difficile de pas prendre position avec force, vigueur, ou comme m'avait dit Monsieur Trump dans le passé, with force and fury against those guys. Donc, avec force et fureur contre ces gens-là. Puis la loi spéciale qui s'apprête à être votée si Québec solidaire se rend à la raison et appuie le gouvernement. Je trouve que l'article de Geneviève Larchaud est super intéressant ce matin dans le Journal de Montréal. Je sais pas si tu l'as lu. Elle regarde qu'est-ce qui peut se passer avec justement la proposition de loi spéciale qui interdirait les manifs, au moins devant les écoles, devant les hôpitaux, puis empêcherait les manifestants de restreindre entre autres l'accès puis d'aller parlementer, discuter avec les jeunes ou avec ceux qui se rendent aux urgences ou à l'hôpital, puis on les enverrait manifester à l'extérieur dans un périmètre qui est préétabli. Elle parle de ce qui peut bien se passer avec Claire Samson, hein, parce que là, ce qu'on voit, c'est que les libéraux, ils l'ont déjà dit hier de toute façon, de Dominique Anglade, eux allaient se joindre à cette raison-là, puis appuyer l'adoption d'une loi spéciale. Il semble que les péquistes voudraient l'adopter aussi. Il semble que les solidaires, eux, seront là, selon certaines informations, en discussion à cet effet-là, mais vont le faire ou pourraient l'appuyer aussi. Il reste qui? Claire Samson. Claire Samson.
Incroyable, incroyable. Alors que le chef de ce parti-là s'est fait vacciner à deux reprises.
Claire Samson, est-ce qu'elle peut jouer les troubles faites? Franchement, écoute...
Claire Samson, elle a eu de graves problèmes de santé, OK? Et elle a été sauvée par la médecine, elle a été sauvée par la science. Vraiment, il faut le redire. Là, il y a un grave problème de santé. C'est des médecins qui l'ont sauvé. Écoute, là, si on fait pas, là, puis c'est quoi la loi spéciale? C'est aussi pour protéger ce zozo-là, M. Amalaga. C'est pour le protéger parce qu'à un moment donné, il y a un parent qui va y casser la gueule.
Ah oui, et puis t'as vu les commentaires des parents hier qui se sont rendus manifester, eux, contre-manifester, si on veut, en fait, pas contre-manifester. Ils se sont rendus eux-mêmes encadrer cette liberté d'expression-là des anti-vax, et j'ai trouvé ça brillant, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. T'as vu qu'ils ont fait jouer la chanson « Eye of the Tiger » Donc, eux ont fait le calcul que, écoute, tu sais, franchement, là, c'est du génie. On fait le calcul que on pouvait signaler les publications sur Facebook lorsqu'elles enfreignaient les droits d'auteur, exemple. Oui. Donc, ils savent que les manifestants anti-vax publient et diffusent leurs manifestations sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jouer? Eye of the Tiger à tue-tête Alors, quand la personne publie ça sur Facebook, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfreint des droits d'auteur. Et les vidéos ont été retirées. Mais franchement...
C'est brillant.
C'est une belle réponse à l'imbécilité, tu sais, je trouve. C'est une réponse intelligente à quelque chose d'imbécile. et voilà. Mais je voulais juste te rappeler une petite anecdote aussi. Tu sais, on est quand même si on se rend tous se range tous derrière cette idée que on laisse les enfants tranquilles, laissez les malades tranquilles, tu sais, allez manifester où vous voulez, mais pas là. Quand même, quand on légifère sur le droit de manifester, même si c'est un appel à la raison, c'est assez intrusif chez les personnes qui sont concernées. Rappelle-toi la loi 78. Rappelle-toi ce que Québec voulait faire lors des manifestations étudiantes.
Oui, c'est une loi d'ailleurs qui avait été très contestée par la gauche.
Puis c'est Maître Louis Sormani à ce moment-là qui était l'avocat du conseil exécutif. Le conseil exécutif, c'est toujours le ministère du premier ministre, là, chaque premier ministre. Normalement, là, les partis politiques vont en sous-traitance, pas les partis, mais plutôt le gouvernement va en sous-traitance lorsqu'il fait des lois comme ça. Et voilà, tu sais. Et là, on va voter quelque chose, j'imagine, qui va être assez restrictif. Mais tu sais, moi, je suis très intéressé à voir comment le gouvernement vote ces lois-là, parce que je trouve qu'il faut quand même avoir un pare-feu. Là.
Si je me mettais devant une école là, tous les jours avec un porte-voix, là, puis je disais, là, joignez-vous à l'Église de Scientologie, puis là, je commencerais à lire des textes de l'Église de Scientologie ou de Raëlien, puis tout ça, tous les jours devant l'école, à un moment donné, on dirait déguerpi, fou le camp. À un moment donné, la liberté d'expression, c'est bien beau, mais elle doit être encadrée, puis je ne comprends pas Québec solidaire et Mme Claire Samson qui branle dans le manche, puis ça, pour moi, c'est un no-brainer. Ces gens-là, là, vous n'avez pas le droit de faire ça devant les écoles, puis tu t'en vas. Écoute, c'est quoi cette histoire-là de deux jeunes qui ont été arrêtés? On craignait qu'ils provoquent un massacre dans une école. Eux disent que c'est une mauvaise blague.
Ouais, ben c'est une mauvaise blague en fait. Je te parle de ça, c'est ma collègue Valérie Gontier qui a réussi à sortir cette histoire-là en collaboration avec Maxime Delan. Aujourd'hui, elle nous parle de ces jeunes-là qui planifiaient, en tout cas on ne sait pas si ce serait concrétisé, mais un massacre dans une école, mais il semble que l'état de planification du complot était déjà assez avancé pour que les ados soient accusés de ça. Alors, on a peut-être évité un carnage. 4 ados qui ont été arrêtés.
C'est quatre.
Ils avaient élaboré ce plan-là, je te l'ai dit, là, très détaillé, pour s'en prendre à des camarades de classe. Alors, ils avaient prévu, écoute bien la liste, des explosifs, des armes à feu, une liste de personnes à cibler. C'est des jeunes de 15 ans là, qui ont fait ça. Là, évidemment, on peut pas nommer c'est qui, on peut pas nommer l'école non plus. Il y a une ordonnance de non-publication, c'est en chambre de jeunesse que cette affaire-là a été déférée. Donc, ça nous restreint beaucoup, là, même pas le nom de l'école, en fait. Là. Justement, le complot, c'est un complot pour voie de fait grave, puis menace de mort aussi. Mais la seule chose là-dedans,
c'est rien des paroles, hein, parce qu'ils n'ont pas trouvé, là, quand ils ont fait une fouille suite à l'arrestation, ils n'ont trouvé aucune arme puis aucun engin explosif. Là.
Ben, c'est un peu ça, mais là, tu vas dire, Félix, tu pousses loin un peu, mais... exemple là, avec le massacre du lycée à Columbine. Si on était intervenu avant, puis on avait entendu parler d'un complot comme ça, puis on était débarqué chez ces jeunes-là, on aurait trouvé des armes parce qu'ils avaient déjà les armes en leur possession. Grand bien nous fasse, au Canada, c'est quand même plus difficile de se procurer des armes qu'aux États-Unis. On n'en a pas trouvé d'armes chez eux, puis on ne sait pas si le complot avait vraiment. Mais on sait pas s'il était pour le mener à terme, mais on sait qu'ils ont comploté pareil. Voilà.
Ben, c'est ça. Puis il faut pas attendre, à un moment donné, quand ça arrive comme ça, là, il faut tout de suite agir rapidement. Et écoute, en terminant, bien sûr, cette histoire là, de Gabi Petito, là, il y a des drôles de messages qui ont été envoyés de son cellulaire.
De son cellulaire, alors où elle se trouvait avant de disparaître dans le Wyoming. On rapporte aujourd'hui, c'est un article de l'AFP qui se trouve sur nos sites, vous pouvez le consulter, qu'il y a certains messages bien particuliers, bien des textos en fait bien particuliers. 27 août, la mère de Madame Petito a reçu une communication qui disait pouvez-vous aider Stan? Je continue de recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués. Stan, c'est le père, le grand-père plutôt de Gaby Petitot. Alors, sa mère déjà se disait, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me dit ça? Et là, il y a un autre message qui entre un peu plus tard, qui dit pas de signal dans le Wyoming, sauf que là, non, pas de signal dans Yosemite. Et là, ce qu'on se dit, c'est que ce message-là, le dernier, n'a pas été envoyé par elle. Probablement pas par elle, parce qu'elle était peut-être déjà décédée à ce moment-là. Alors, ça continue, et son conjoint, lui, Laundry, historique de violence conjugale, est toujours recherché ou est toujours porté disparu.
Donc, quoi, quelqu'un aurait volé son cellulaire ou l'aurait pris après son décès, aurait trouvé le cadavre, aurait vu le cellulaire?
Ben, on peut penser que Laundry lui-même aurait pu texter aussi. Si Laundry, qui n'a pas du tout collaboré à l'enquête avant, rappelons-le, de disparaître, a quelque chose à se reprocher. C'est pas, je veux dire, c'est arrivé souvent dans le passé. Je dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais je te dis que c'est souvent arrivé qu'un suspect de meurtre prenne le cellulaire d'une de ses victimes après les faits pour tenter de faire croire que cette personne-là est toujours en vie, comme on le faisait avant avec des lettres postales. Richard, là, on écrivait, puis on disait, oui, votre soeur va bien, mais elle est alitée, elle est malade, alors qu'elle était 6 pieds sous terre déjà. T'sais.
Écoute, la première page du journal, 3 individus qui ont poignardé à mort un jeune de 20 ans pour voler sa PS4. C'est dégueulasse.
C'est beaucoup trop de violence pour une console de jeu, hein. J'ai vu ça, là. Ben, voyons donc. C'est des gens qui ont raté leur coup de manière, tu sais, sanguinaire. Ils voulaient voler de l'argent, voler un peu de drogue. Finalement, bon, ils sont rentrés dans une première maison. Il n'y avait pas grand chose. Ils sont rentrés chez ce jeune-là, Tristan Boudreau-Boyer, à La Chute. Puis ils ont aspergé son père de poivre de Cayenne. Lui est sorti en disant qu'est-ce qui se passe. Et là, finalement, écoute, on l'assomme et puis on le poignarde à 2 reprises au cœur. Et on vole sa PS4, puis on vole la drogue, puis comment on s'en rend compte? Ben, c'est qu'après avoir volé la PS4, les accusés ont utilisé la carte de crédit de la mère de leur victime pour s'acheter des trucs sur le fameux PlayStation Store, là, où, pour ceux qui connaissent ça, là, c'est un magasin où tu peux acheter des jeux en ligne, puis c'est ça.
Absolument odieux, dégueulasse. Merci beaucoup, Félix, on se reparle demain.
Avec plaisir.
Salut.